la revue de presse avec donc les sorties. On va se consacrer un peu à ce que Panini va nous sortir dans les deux prochains mois. Donc pour les mois de mai et juin, puisqu'ils viennent de nous annoncer les sorties de juin. Et on va commencer quand même par une sortie d'avril, qu'on aurait pu mettre à la fin parce qu'elle va sortir en juin, officiellement.
On la garde un petit peu pour la fin celle-là, parce que je sens qu'il y a... si on commence à être très négatif, on va mieux le garder pour la fin, parce que c'est vrai que c'est quasiment un coup de gueule.
Voilà, donc c'est clairement un coup de gueule d'ailleurs. Donc on va avoir au mois de mai, donc on a évidemment tous les magazines traditionnels qui continuent à sortir. Donc Dark Reign, Spider-Man, Marvel Heroes. Mais on va aussi vous parler un peu des inédits donc, qui vont sortir. On a déjà eu ce mois-ci donc, le premier numéro de Wolverine avec les premiers épisodes de la série Weapon X, Jason Aaron et Grant Gardner. Donc ouais. Qui continuera dans le 196, donc dans deux mois.
Qui est quand même une série très agréable.
Et là, il est passe deux par deux, donc on n'a plus de X-Men de Wolverine Origins avec.
Ce qui n'est pas plus mal, mais bon, comme la série enfin, Wolverine Origins va s'arrêter au numéro 50, ce qui n'est pas trop tôt.
C'est ce que j'allais dire.
Et puis, non, mais c'est dommage parce que le dessinateur actuel, Doug Bresswells, colle vraiment beaucoup mieux que l'espèce de tâche enfin, que Dylan. Que le travail que Dylan pouvait faire. Bon, après, c'est tous les scénarios qui sont toujours aussi indigents, quoi. Ce qui est dommage. Par contre, c'est Aaron, c'est ça ?
Oui, Jason Aaron.
Donc, Jason Aaron sur la série, là, le Weapon X, on peut y aller sans difficulté. Oui. Les scénarios sont vraiment intéressants. Il a une vision du personnage qui est. Comment dire, assez classique, mais quand même en mettant des petits éléments qui avaient été repris par Brubaker, enfin qui avaient été développés par c'était Ruka.
Oui, je crois.
Donc sur le run de Ruka, ou en le faisant quand même un Wolverine lecteur de grands classiques et pas que la brute avinée. Donc c'était assez intéressant. Il y a pas mal de petits détails. Et puis Ron Garnet quand même est un dessinateur assez punchy, dynamique, a une très grande fluidité voilà. Narrative, donc ça colle vraiment bien. Et ce qui est vraiment intéressant en plus pour lui, c'est que ils sont enfin Marvel a opté pour un choix un petit peu artistique assez étonnant, c'est qu'il n'encre pas ses dessins. Ils sont directement mis en couleur. Et mine de rien, les crayonnés, Garnier a quand même des crayonnés qui sont assez purs, assez précis, et ça colle bien, ça donne, on ne perd pas le dynamisme et la pêche, l'énergie qu'il a réussi à mettre dans son trait.
Tout à fait. Donc à noter quand même, donc le premier vient de sortir, le deuxième le mois prochain avec encore deux épisodes, il les passe deux par deux tous les mois, donc effectivement on va rattraper un peu le retard.
Oui, et puis d'ailleurs voilà, il va y avoir un feeling parce que il y a quelques numéros qui ne sont pas dessinés par Ron Garnier, et là bon actuellement on va être au numéro 12 aux États-Unis.
De toute façon, il va falloir qu'ils arrivent quand même à nous passer la fin des Origins,
oui.
Donc il n'y a pas d'inquiétude.
Surtout que là en plus il y a quelques petits sont lancés dans quelques petits délires avec Deathlock, Captain America, et c'est jubilatoire quoi.
Voilà, donc en parallèle on va donc avoir le mois prochain dans Marvel Icons 61 quand même le numéro 600 de Captain America.
Ah,
donc Brubaker effectivement qui met la série en pause après ce numéro. Il y aura quand même un 601, mais qui est en fait un annual qui a été transformé en 601.
Oui, qui est un des derniers travaux professionnels de Jenny Colan.
Oui.
Même, on peut dire, son dernier, puisque maintenant, enfin, il avait pris sa retraite et il n'accepte même plus de faire des commissions. Donc, alors qu'avant, il en faisait en nombre limité, certes, mais il en faisait. D'ailleurs, on lui souhaite un bon prompt rétablissement parce qu'il a eu, il a connu quelques petits déboires de santé la semaine dernière. Il s'est cassé la figure. À 80, plus de 80 ans, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat.
Dommage qu'il soit pas mort, on aurait pu faire l'édito dessus.
Je déconne. Non, mais en plus, là, on lui a volé des planches. De sa période d'ici, donc il y avait pas mal de planches en crayonné direct comme les Nathaniel Dusk and Co. C'est un peu dommage.
Tout à fait.
J'espère qu'on les retrouvera.
Donc sinon, dans les spéciaux qui vont sortir...
Par contre, est-ce que Panini va sortir la... quelle version Panini va publier de la 600? Est-ce que ça va être la version couleur ou la version uniquement noir et blanc?
Forcément la version couleur.
C'est dommage, parce que là on perd le...
Forcément la version couleur dans un magazine mensuel... on peut pas effectivement espérer. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'éventuellement ils fassent des compilations avec les numéros noir et blanc sur différentes.
Parce que là, effectivement, comme on disait pour par rapport à Ron Garnet, c'est les planches ont été juste dessinées et absolument pas ancrées. Alors c'est vrai qu'en plus, il a un style. Jay Nicholas a quand même un style particulier et que tous les encrans ne lui vont pas. Et là, cette fois-ci, Marvel hein, aux États-Unis avait sorti deux versions, une couleur. On retrouvait quand même le style de cet auteur, ses compositions complètement uniques, etc. Donc c'était un pur plaisir, mais la mise en couleur, on sentait quand même qu'elle couvrait et affadissait, et dans certains cas gâchait un peu le dessin. Et ils ont sorti une version, parce que quand ils ont vu ils avaient la richesse des crayonnés qu'il avait fait, mais ils en ont sorti une juste en crayonné pur. Et là, on s'aperçoit que pour 82 ou 83 ans, il avait pas rien perdu de son style. Alors qu'il était peut-être beaucoup plus lent, et c'est vrai que c'est ce qui fait que l'annuel a été un petit peu condensé pour tenir sur un numéro mensuel de 22 pages. Mais les planches étaient extraordinaires. Et c'est dommage parce que là on perd beaucoup.
Mais là, au niveau français, c'est vrai qu'on a eu aucun des numéros en noir et blanc qui sont sortis. Je pense pas que ce soit à l'ordre du jour de la part de Panini. Il y a hors série aussi qui sortira.
J'espère qu'ils feront ça peut-être pour les Ice of the Camera, les Marvel.
On peut rêver. Mais là aussi, je crois que ça va être difficile. Par contre, on a un spécial quand même qui sort ce mois-là dont il faut parler. C'est Dark Reign hors série, la liste.
Ah oui.
Avec effectivement les one-shot sur les Vengeurs, les Secret Warriors, le Punisher et Wolverine.
Oui. Oui, alors là ça va être difficile d'en parler sans trop. C'est un peu une pause dans le. Enfin, c'est à la fois une pause et un tournant dans Dark Reign.
En fait, Norman Osborn a juste décidé de massacrer tous les gens qui l'enquiquinent.
Il les a tous mis tous les noms des personnes qui l'ont un petit peu enquiquiné ces derniers temps ont été répertoriés sur une liste. Et donc ça va de Nick Fury, donc déjà pas le premier Pékin et le premier que j'aimerais un petit peu enquiquiné, Frank Castle qui est pas mal non plus, il avait mis quoi, Spider-Man, il a mis Daredevil,
le Punisher, Wolverine, voilà, enfin il en a mis plein. Il y en a qui vont s'en sortir un peu plus mal, comme le Punisher.
Ah ben le Punisher, oui, il est façon un peu sushi, quoi, un petit peu un peu détaché.
Mais voilà.
Mais ça, on va pas spoiler parce que ça a des conséquences sur la série régulière Punisher.
Qui change de titre.
Qui change de titre, qui va s'appeler Franklin Castle. On n'en dit pas plus, mais c'est un pur délire. Et là, j'avoue que pour une fois, Marvel a eu une très bonne idée.
Reste à voir combien de temps ils vont pouvoir tenir là-dessus. La dernière fois qu'ils ont fait un truc hyper audacieux sur le Punisher. Ça a été un poirage. C'était quand ils l'ont ressuscité.
Oui, enfin audacieux, oui. Ça...
Ah, c'était audacieux, c'était surréaliste et c'était déjà Quesada.
Oui, mais ils ont quand même réussi à l'intégrer dans la continuité officielle du Punisher, au moins du Punisher Max. Après, le Punisher normal, je sais pas,
non,
mais au moins le Max.
Punisher normal, pas dans le Max.
Si. Les références ont été faites dans le Punisher Max, par le Marvel Knight et donc le Punisher Max.
Le Marvel Knight était encore considéré comme en continuité à l'époque. Donc, de toute façon, on a effectivement ces éléments.
J'aime les comics sous cellophane.
On a Ultimate Avengers aussi qui se lance le mois prochain.
Alors, Ultimate Avengers
Ultimate Avengers.
Ah. Donc, le Pacheco.
Exactement.
Marc Millar, Pacheco.
Voilà, tout à fait.
Donc... Et pas mauvais. Ben le dessin Pacheco a beaucoup perdu avec sa séparation de son encreur Ressus Marino qui est resté sur JSA.
Mais même lui disait qu'il reconnaissait plus son dessin sous l'ancrage de Merino et que c'est pour ça que...
Oui, mais c'est vrai, mais par contre, la conjonction des deux fonctionnait bien. Bon, c'est pas mauvais, le scénario a des petites idées intéressantes et la relecture du mythe de Crâne Rouge est pas idiote. Donc,
On va avancer parce qu'autrement, je suis sûr qu'on va finir l'émission sur cette revue de presse. Parce qu'en plus, le titre suivant, il n'y a que toi pour le défendre. Dans X-Men Extra 79, le mois prochain, commence une série qui s'appelle en X-Men. Français À jamais X-Men.
X-Men Forever ?
Oui.
Oh ! Pourquoi je suis le seul à... Serais-je le seul à défendre ça ?
Parce que c'est un coaché un peu kitschissime.
Non ! C'est une relecture assez intéressante. En fait, le principe de la série... Ouch.
Il est en train de feuilleter ses comics en même temps, c'est pour ça que vous entendez des ouches à l'antenne.
Oui, pour finir la partie, c'était un dessinateur qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, Graham Nolan, et qui a un peu perdu. Alors, est-ce que c'est l'encreur qui a démoli ou que le monsieur n'était pas concerné ?
Voilà. Enfin, bon. Non, ce qui est énorme, c'est qu'en plus, c'est sur la série qu'il est en train d'essayer de
mettre. Et voilà, c'est effectivement.
Qu'il a fait où je peux. Voilà. Donc, la série qui sera relancée de toute façon par la suite aux États-Unis.
X-Men de Forever 2. Donc, en fait, c'est le principe est que le. C'est, qu'est-ce qui se serait passé si Chris Claremont n'avait pas quitté la série des X-Men en 1991.
Alors, soyons honnêtes, hein, c'est loin d'être les scénarios qu'il avait écrits en 91. D'ailleurs, on le voit bien, il y a des choses qu'il a récupérées sur ce que d'autres ont fait beaucoup plus tard, comme une Kitty Pryde avec une griffe, où on n'a vraiment pas compris pourquoi. Certains de ces personnages ont des noms de famille différents. On n'a pas vraiment compris non plus pourquoi. Et donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, sur lequel on peut quand même avoir de gros doutes.
Oui, mais à côté de ça, c'est quand même une série qui est fun. Il y a des pas mal de petites idées. Alors oui, ok, il n'est pas à la hauteur de... ce n'est plus le Claremont qu'on avait apprécié. Bon, il a quand même beaucoup perdu. Alors c'est vrai qu'il y a les exigences... il y a eu pas mal d'exigences au niveau éditorial, donc qui ont fait que certaines gimmicks et titres Claremont abusé ne peuvent plus être utilisés, et ça, bon, on y perd un peu. Après, bon, il manque, enfin, son inspiration est aussi quand même un petit peu diminuée, et je pense qu'il n'a pas encore complètement récupéré des petits pépins de santé qu'il avait eu. Mais à côté de ça, c'est quand même quelque chose d'assez rafraîchissant. Parce que, mine de rien, quand on voit le massacre que ces séries avaient eu, avaient connu dans les années 90, bah finalement, s'il était resté, je crois que ça aurait peut-être été mieux. Alors. Et puis, en matière de storytelling, de rapide, de fluidité et tout, et d'action compressé et tout, il peut en montrer beaucoup à certains Brian Michael Bendis, soit voilà. Comme un certain comme de Falco aussi.
On va essayer d'avancer parce qu'il faudrait, Stéphane, que tu fasses plus court. Donc là, je vais te donner deux titres en même temps et tu vas essayer de m'en parler en même temps. Cheval Girl numéro 33, bimestriel à 3,90€, et Maxi Cheval Girl 2, trimestriel à 4,50€, 36 pages, plus postal, plus carte postale, plus stickers, plus un cadeau.
Cheval Girl ?
Bah ouais. Mais il faut pas que des comics chez Panini me l'ont mis dans la liste. Au moins là-dessus, je sais que t'as rien à dire.
À part que ça t'a tête, tu vas finir en boucherie chevaline incessamment sous peu.
Allez, on va.
C'est quoi ? C'est Alexandra Lederman enfourche son poney
Mais il y a des choses quand même que tu devrais regarder dans les comics Panini. Dans les choses non comics de Panini. Comme par exemple National Geographic Kids numéro 3, qui est un mensuel à 4,48€ pages plus carte ou poster. J'aime bien d'ailleurs ces cartes ou posters, ils savent pas encore ce qu'ils vont mettre dedans. Hein. Parce que pourquoi National Geographic Kids 3, vas-tu me dire ? Ou pourquoi National Geographic Kids en général ? Parce qu'il y a des comics Marvel dedans. Le regard de tueur par-dessus les lunettes, c'est pas radiophonique.
C'est pas un regard de tueur, c'est l'expression de ma profonde
incompréhension.
Dépit, ouais, incompréhension.
Eh bien, dedans, si tu
as l'occasion... Surtout qu'en plus, il manque un truc que j'attendais. Là, il déconne, Forbidden.
Allez, mais c'est pas forcément leur faute par rapport à ça, on se rassure. Et donc, dans National Geographic Kids, ils sortent les Franklin Richard, Son of a Genius.
Ah, là, ils me réconcilient alors.
Voilà. Donc c'est pour ça que...
C'est tout, hein. C'est quoi? C'est Chris Garucci.
Oui.
Un gars qui avait travaillé pas mal avec aussi d'un Schlimmage avec Eric Larson.
Oui, tout à fait.
Et qui avait fait une petite série, quoi, enfin, qui avait connu quelques numéros de deux célibataires malchanceux.
Le titre.
En façon un peu stricte, voilà. Mais qui fonctionnait bien, quoi.
Voilà.
Et puis non, les Franklin Richards sont des petits. Alors, des petites merveilles, quoi.
Alors, en librairie, évidemment, il y a d'autres choses qui vont sortir. On va passer sur le Marvel Monster Dark Reign numéro 2, parce que c'est un espèce de mélange avec des épisodes de Deadpool, de Miss Marvel, Dark Reign Zodiac et Dark Reign Les Legends. En gros, ils vont coller dans un Monster tout ce qu'ils savent pas comment coller ailleurs. On commence à t'habituer, on ne va pas trop en parler. On ne parlera pas trop non plus du...
Mais, enfin, au moins, ils sortent les bouquins, ils nous font pas le coup de cooldown où ils oublient la moitié des éléments... en cours de route et qui s'aperçoivent et ils vont s'apercevoir en cours de route que ça va être difficile de publier que le Mark Bagley, hein.
C'est Trinity, c'est pas Condon, mais là en même temps ils ont, ils ont bientôt fini, je crois que comme personne ne le lit plus ça dérange plus personne. En tout cas, il y a un autre titre dont on va pas forcément parler parce qu'on en reparlera je pense plus longuement, c'est le Ultimate Galactus Trilogy qui sort en un album de 328 pages à 28€, donc toujours au mois de mai.
Ah, ça c'est quand même une bonne lecture.
Donc, voilà, donc du Warren Ellis, du Steve Epting, du Steve McNiven, du Tom Radde, du Brandon Peterson, pourquoi bouder son plaisir.
À quel prix?
28€ pour 328 pages. C'est pas ce qu'il y a de plus cher. Finalement, c'est d'un assez bon rapport qui a été pris par rapport à d'autres choses. C'est bon, on pourrait s'attendre à des prix plus cassés, mais c'est pas du tout le style de la collection.
Non, mais puis bon, c'est un truc de qualité.
Voilà. Donc après, on a les 100% Marvel avec Wolverine noir de Stuart Moore et C.P. Smith. Donc, une manière de revisiter façon polar. Les aventures de Wolverine.
D'un côté polar et pulp, parce qu'on est un peu dans les ambiances de polar, la Dash Alamette, la Humphrey Bogart, donc dans les années 30, et c'est pas mal fait. Enfin, c'est le Wolverine noir, c'est ça?
Oui.
C'est P. Smith, oui.
Voilà.
On peut le regarder avec jeter un coup d'œil. Par contre, le style est particulier.
Dans les autres séries qui vont sortir, La Veuve Noire de Paul Cornell, Tom Rané, John Paul Leon, donc chez Max. Évidemment, encore des tomes d'autres séries qui sont là depuis longtemps, hein, comme le Punisher Max, qui est déjà son 16e tome en France, ou X-Men l'intégrale avec la deuxième partie de l'intégrale de 1987. Là, par exemple, on est à 256 pages pour toujours les mêmes 28€. Donc on a quand même 70 pages de plus dans le Marvel Deluxe. Ouais,
ils mettent quoi dans l'intégrale? C'est l'année 87.
Uncanny X-Men 220 à 224 de Claremont et Silvestri. Plus la mini-série X-Men
220
à 224.
Oui, donc Tony et Silvestri.
Voilà. La mini-série X-Men Avengers.
Oui.
Et deux histoires courtes de Claremont et Cockrum, je sais pas où ils nous les ont trouvées.
Deux histoires courtes de
Claremont et Cockrum, qui serait sorti en 87. Ça m'a.
C'est pas dans les X-Men Classics ou les.
Cockrum, je pense pas.
Bah, si, 87, ce serait pas les. La suite avec Michael Lodden, parce qu'il avait travaillé sur la Marvel Fanfare aussi, Cockrum.
Peut-être.
Qui était sorti là, dans un album des X-Men, le numéro 4, je crois, non?
Il y a eu.
Sur la Terre Sauvage, où on se retrouvait avec un parti Spider-Man.
Il y a eu différentes histoires.
Paul Smith, il y a eu Colden, Paul Smith et Cockrum.
Peut-être, mais là, comme il parle de deux histoires courtes par Cockrum, c'est pas ça. Mais dans Marvel, enfin, ça part, il y a d'autres choses qui vont sortir. Chez DC, un seul titre en librairie, ce sera Batman Gotham After Midnight. Steve Knight, Kate Jones. Chez Vertigo et Wildstorm. Alors en Wildstorm Deluxe 320 pages 30€ pour le run complet de Warren Ellis et Brian Hitch sur The Authority.
Combien?
30€, 320 pages.
30€, 320 pages, ça fait les 12 numéros.
Ouais, ça fait 10€ par arc.
C'est pas mal. Par contre, est-ce qu'ils avaient quand même réédité le run de Warren Ellis sur Stormwatch? C'est un petit peu dommage ressentir ce run-là d'Authority s'il n'y a pas ce run de Stormwatch auparavant.
Je suis un peu d'accord avec toi, mais bon, c'était pas dans leur programme. Ils leur feront peut-être à l'enfer un jour. Ils vont aussi sortir chez Vertigo, là c'est plus étonnant. The Mystery Play de Grant Morrison et John Jimus, 80 pages à 15€. Ah ben, il y a des trucs.
C'est une prise de risque là, c'est pas quelque chose de.
Et puis, il y a des fois comme ça, ils se lancent dans des choses. Bon, ils s'étaient lancés dans The Boys, ça fonctionne, ils en sont déjà à 6 tomes. Et là, ils se.
The Boys, c'est pas étonnant. Voilà. Quand on connaît le succès de Preacher, enfin, toute une série de Warren. De Garcenis.
Ils ont l'air de vouloir vraiment développer le partenariat avec Dark Horse. Et ils nous sortent la série Cool. Avec Arvin Nelson et Will Conrad de Dark Horse. Alors voilà, encore une adaptation de licence qui revient. Le roi cool est cul et là.
Alors, oui, je sais qu'il n'y a pas longtemps là, sur la TNT le film. Watch. Non, je jure, je n'avais pas utilisé de substances illicites, mais c'était quand même. Un peu fluo.
Voilà, alors on arrive au mois de mai quand même, parce qu'il va falloir qu'on y arrive. Et dans Dark Reign Saga numéro 3, on va voir la mini-série X-Men Noir, donc Dark X-Men, qui sort donc en or sur Rion. Ça se surprendrait même pas dans les
X-Men. C'est un peu idiot d'appeler ça X-Men Noir, alors qu'il y a déjà une série éponyme qui s'appelle X-Men Noir aux États-Unis.
Ouais, enfin, bon. Et qu'ils ont déjà sorti en France.
Voilà, donc et bonjour la confusion. Quoi.
Et c'est pour ça que d'ailleurs la collection qui devait s'appeler Marvel Noir n'a fait qu'un seul numéro, parce qu'après ils sont redevenus des 100%, ce qui leur a permis d'augmenter le prix. Mais ça permettait aussi de ne pas confondre avec Dark Reign. Là, il y a une vraie erreur de traduction chez eux. Donc ça sort mi-juin. Donc, à lire.
Alors, c'est vrai qu'à je joue l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'était pas des choses qui sont super très simples à traduire.
Voilà. Alors, après, effectivement, on a Batman Universe qui se lance chez DC. Pour DC. Donc, on en avait déjà parlé le mois dernier, avec effectivement, dans ce premier numéro, les Gaiman et Andy Kubert qui sortent en kiosque. Ce qui est à mon avis une erreur. Ça aurait été nettement mieux en librairie et nettement plus vendeur de commencer le magazine avec Battle for the Call.
Ça aurait été beaucoup plus
respectueux.
Oui, plus vendeur, parce que là les Whatever Happened to the Caped Crusader, quand même pas évident.
Puis moi j'aurais appelé ça un numéro 0 pour recommencer avec un 1 le mois suivant parce que ça n'a pas de lien.
Oui. Et puis bon, en plus, c'est quand même une espèce d'allé. Enfin, c'est un côté un peu allégorique qui est qui est un hommage direct à une histoire mythique de Superman qui avait été écrite par Alan Moore. Donc, en fait, qui était la fin du qui clôturait toute la vie du Superman du Golden, enfin du Silver. Silver Age quoi, Golden.
Modern Age
quoi, des années 60.
Voilà. Donc ensuite, il n'y a pas que National Geographic, c'est Cheval Magazine, Cheval Noir là.
Ouais.
Dans les trucs pour kids, il y en a un autre. Alors je te demande de te mettre en mode Séverin. Les Voyages de Hello Kitty numéro 3. Je pense que Séverin aurait aussi été consterné.
C'est une licence qu'ils vendent, qui a dû leur coûter bonbon. Ben, j'espère qu'ils vont en vendre pour la rentabiliser, mais en tout cas, ça passera pas par moi.
Voilà. Alors, il y a toujours plein de magazines sur Spider-Man et Marvel et X-Men dans ce style-là. On a un peu du mal à comprendre parfois la différence entre les magazines. Donc, ce sont trois magazines pour jeune public. On ne sait pas quelle tranche d'âge ils visent chacun. Et comme ils sont tous sous plastique, on ne peut pas vérifier.
Surtout qu'en plus, enfin, même chez Marvel, hein, enfin, on va dire que c'est un peu le bordel au niveau des lignes éditoriales.
Ouais, un peu quand même.
Alors, mais quand même, si, on a oublié une petite nouvelle. C'est que Diamond n'est plus le distributeur officiel du catalogue TPB de Marvel.
Ah, mais plus le seul.
Non.
Il continue à en sortir, quand même.
C'est la distribution, normalement, maintenant, passe totalement à Hachette.
Ce qui risque de poser des problèmes aussi à Marvel. La dernière fois qu'ils ont essayé de se passer de Diamond, enfin à l'époque c'était Capital et pas Diamond, puisque Diamond était numéro 2.
Non, mais ils ne le font pas pour les Monthly. Pas fous, ils laissent les Monthly, les fascicules à Diamond et le circuit librairie. Hachette est quand même le deuxième groupe mondial. Doivent connaître leur...
Non, c'est clair.
Et je pense qu'il doit y avoir aussi des possibilités de pénétrer des marchés que Diamond ne pourrait pas
prendre. Oui, mais ça, c'est de façon, effectivement, depuis longtemps le cas. Et c'est ce qui avait aussi amené, puisqu'il y avait déjà des diffusions en dehors. Et c'est pour ça qu'ils avaient tenté de faire un partenariat avec Double Brothers à l'époque, pour lier les deux.
Oui, enfin, Double Brothers, c'était un éditeur. Oui. C'est vrai, mais n'avait pas forcément la puissance de feu de.
Mais il y a encore.
Mais c'était après surtout, enfin, ce qui intéressait aussi beaucoup Marvel à cette époque, c'était le portefeuille de personnages que Double Brothers savait.
Voilà, et qu'ils exploitent bien maintenant.
Voilà.
Donc.
Continuent toujours d'exploiter pour certains, du moins comme Anita Corps.
Alors, on aura d'autres sorties évidemment en librairie, notamment un Daredevil noir. Par Alexander Irvine et Tom Cocker, qui est sympathique mais finalement n'apporte pas grand chose. Parce que moi je l'ai lu et le problème c'est gâcher le talent de Tom Cocker et surtout quand on lit les origines de Daredevil, on est déjà tellement dans cette imagerie pulp et
ah bah, de toute façon on passe le problème Daredevil et Marco Frank Miller a laissé son empreinte dans le côté très polar à la Dash Salamette etc. Mais enfin, on y reviendra plus tard donc à partir de là la série Marco Fer Rouge alors replonger une série comme ça dans un contexte et dans une atmosphère qui est quasiment celle de la série actuelle. Où est l'intérêt ?
Ça ressemble plus à un rétro retcon avec un retour 30 ans en arrière plutôt qu'à une vraie revision comme c'était le cas des Spider-Man.
Les Spider-Man ou Luke Cage ou autre peuvent vraiment la fonctionner.
Après, on a d'autres séries donc, qui sortiront. Captain America Théâtre de Guerre par Paul Jenkins, Gary Ersin et John McCree. Donc 4 épisodes pour voir Captain America sur les plages de Normandie.
Oui.
D'accord, bah tout est dit.
Non, c'est pas. L'équipe d'auteurs est sympathique. Lire, mais c'est pas. C'est pas inoubliable, quoi.
Et si je te parle plutôt d'une réédition à ce moment-là de Avengers Forever par Bozic, Stern et Pacheco.
Stern?
Oui, il était co-scénariste. Kurt Busiek et Roger Stern sur cette série.
J'avais oublié. C'est marrant parce que j'avais complètement oublié le rôle de Stern là-dedans. Comme quoi.
Ouais.
Ah, bonne nouvelle. Voilà. J'avais beaucoup aimé cette série.
Et puis dans les rééditions de grands classiques qu'on va revoir.
Et puis Pacheco, il y a quelques planches de Pacheco qui sont à tomber.
Et puis, comme il y a des choses qu'on est obligé de rééditer, parce que quand on a viré l'autre éditeur qui les éditait, il faut qu'ils soient disponibles en catalogue, on nous relance Arkham Asylum de Grant Morrison et
Dave McKim. Bis Repetita Plaquette, quoi, ça fait la combienième édition française?
45e, je pense.
Bon, c'est quand même toujours du tout bon, quoi.
Enfin, 144 pages, 18 euros.
Ouch. Ah. Là, ça fait du luxe.
On se mouche pas du coude.
Par contre, effectivement, pour quelqu'un qui veut. Mieux vaut prévenir, c'est du très bon Grant Morrison. C'est un magnifique boulot, mais c'est pas le plus accessible de cet auteur.
Non, c'est clair. Et puis bon, il y a d'autres choses qui vont être rééditées dans le même style. 128 pages, 20 euros. Uncle Sam d'Alex Ross et Steve Dernal.
À ce moment-là, je préfère aller farfouiller sur Amazon pour trouver l'original. Le TPB de la version originale, ça coûtera moins cher.
Ou faire les bouquinistes, vous allez retrouver facilement la version de Semic. Beaucoup moins cher. Et enfin, on aura le cinquième tome de Planétary avec enfin la fin.
Oui, alors là, on n'a rien à dire. Vous déconnectez le cerveau, vous foncez à la librairie, vous le réservez, vous l'achetez, et vous prenez votre pied. Et vous aurez une petite larme au coin de l'œil quand vous verrez la fin de ce truc. Parce que merde, quoi, c'est 10 ans d'attente, ok, c'est long. Mais quelle baffe, quoi. C'est le chef-d'œuvre de Warren Ellis. Et ça, on a quand même
Mais je pense que.
Cette petite pointe d'émotion quand on voit
ça,
la série.
Ça justifierait qu'on fasse un petit topo sur Planetary.
Ah oui. Voilà. Mais si vous, à ce moment-là, si vous n'êtes pas. Parce que je sais pas ce que vaut la version française, la traduction. Si vous n'êtes pas.
Obtus à l'anglais.
Obtus à l'anglais, à ce moment-là, ils vont sortir. Oui, je crois qu'ils ont sorti. Ou ressorti. Parce qu'au moins pour le volume 1, il était complètement épuisé. J'ai dit ici les Absolute Edition du Planetary. Donc c'est un magnifique. Ce sont des bouquins qui sont sous coffret en format oversize, donc plus grand que le comics, ce qui met bien plus en valeur tout le travail des artistes.
On va faire vite quand même.
Et ça c'est et donc deux volumes, ok, ils valent $99 chacun, mais attendez un petit peu que le dollar remonte, vous pouvez faire des affaires et puis là vous le regretterez pas.
Il est déjà 19h54 et on en est toujours à la première chronique, mon petit Stéphane.
Ouch.
Alors on va faire rapide sur la suite, hein. Il y a des choses qui sont assez étonnantes, comme la sortie d'un Big Book, Jonah Hex numéro 2. On s'attendait pas à ce qu'il nous refasse un deuxième tome sur la série. Bon, le film est pas encore sorti et
donc Gray Palmotti, avec qui
Burnett, Filnotto, Paul Guglielmi.
Oh bah, allez-y, là voilà. C'est. Voilà. Si vous aimez le western spaghetti,
si vous êtes arrivé, parce que là on arrive quand même à ce qu'on. Je voulais dire au départ que tu voulais pas. C'est que cette semaine était censé sortir le tome 2 de l'omnibus Starman. Et que Panini nous annonçait officiellement aujourd'hui qu'ils avaient pas reçu le matériel de DC, qu'ils ne pouvaient pas sortir cette semaine et qu'ils allaient avoir 2 mois de retard. Alors, ce qu'ils savaient depuis 2 mois.
Voilà, ce qui s'appelle quand même un peu un foutage de gueule, parce que, bon, ok, y a quand même un minimum de temps de temps pour que tout puisse être publié. Est-ce que ça, en termes de traduction, bon, ça devait être déjà fait depuis un petit moment, mais bon, est-ce qu'ils attendaient les films, enfin tout le matériel, ok, mais ils devaient le savoir depuis déjà un petit moment, donc qu'ils annoncent ça une semaine. Le jour de la sortie, qu'ils seront pendant les temps alors qu'ils le savaient avant.
Après,
ça s'appelle du foutage de gueule.
Soyons honnêtes, il y a plein de titres comme ça qui ont été annoncés, retardés de 2 mois et pas réapparus 2 ans plus tard.
Oui, ça, c'est malheureusement ce que je crains qui arrive. Ouais. Et c'est dommage parce que la série Starman valait quand même réellement le détour.
Mais là, c'était vraiment un risque important de leur part.
Oui, non, mais je reconnais. Enfin, ils ont tenté. Bon, après, effectivement, il y a aussi des impératifs économiques. Et je sais pas comment ils ont. Si le premier tirage a été vendu, combien il y en avait. Il faut aussi qu'ils rentrent dans leurs frais, quoi.
On va quand même conclure en disant que Panini se diversifie. Encore.
Ah bon, ils font autre chose que les chevaux.
Ils vont faire des romans. Il lance un roman World of Warcraft et un roman Diablo 2.
Ah, c'est marrant, j'aurais plutôt vu Fleuve Noir ou Rajlon sortir ce genre de...
En gros, ils ont réussi à leur piquer des licences comme ils ont fait avec tous les autres. C'est un peu vraiment la concentration vue par Panini. Enfin voilà, comme quoi on le voit, il y a beaucoup de sorties qui se profilent. Beaucoup de Marvel quand même et très peu de DC, on est bien obligé de le reconnaître.
Ouais, mais j'ai un peu quand même l'impression qu'ils se refont un peu les conneries que Marvel ou DC avaient fait pendant quelques années. C'est on lance contre le mur et on voit ce qui tient.
Ouais, c'est un peu vraiment la politique.
Parce que la cohérence éditoriale, il y a des moments sur certains. J'ai un peu de mal
à. Marvel aux États-Unis fait un peu la même chose avec une flopée de one shot à tout bout de champ. Qui devient assez lassante.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis même aussi la façon de transférer des mini-séries comme le Captain America Reborn qui aurait pu très bien s'intégrer dans le droit fil de la série régulière sans que ce soit un event. Enfin bon.
Ouais, tout à fait. C'est un faux event d'ailleurs parce que ça fait un peu un flop aussi.